Sébastien Pla, sénateur de l'Aude, sénateur socialiste, d'ailleurs je le précise, je crois qu'on ne l'avait pas dit, mais on va revenir un petit peu tout à l'heure sur le côté un peu plus politique, politicien. Mais, donc, je le disais juste avant la pause, il y a le Sénat, l'institution, l'Assemblée, puis il y a les sénateurs. Alors d'abord, vous êtes sénateur pour un territoire, et vous l'avez évoqué, vous devez représenter les gens de votre territoire, et puis... Tout homme, élu ou pas, a aussi ses spécificités et ses préférences. Donc, vous, qu'avez-vous choisi, Sébastien Pla, comme orientation ou spécialité dans le Sénat ?
Alors, moi, j'ai souhaité participer aux travaux de la Commission des affaires économiques du Sénat pour la bonne et simple raison que c'est la commission à laquelle nous traitons la plupart des sujets importants pour les citoyens du département de l'Aude. Je dis important, des questions agricoles. Je suis vice-président du groupe Vigne et Vin du Sénat. Étant moi-même vigneron...
Ça va de soi, presque.
La première activité agricole du département était logique, mais au-delà de ça, on travaille avec les éleveurs, les céréaliers, avec l'ensemble, les maraîchers et toute forme d'agriculture. La commission des affaires éco travaille sur la question du logement, travaille sur la question de l'énergie, la question du tourisme, la ruralité. Donc tous ces sujets-là nous concernent la mer. Donc tous ces sujets-là concernent notre département. Et je ne me voyais pas participer à d'autres commissions, je pense notamment à la commission des lois. Je ne suis pas un juriste, moi un spécialiste. Je m'y fais, j'apprends la mécanique juridique, mais je ne suis pas un juriste. La commission des finances est intéressante, puisque c'est elle qui examine le budget de l'État. Mais bon, elle travaille 2 mois par an à la fin de l'année, pour travailler sur des chiffres et des contenus. Moi, je suis un élu de terrain. J'aime beaucoup la relation et le contact avec les maires, avec l'ensemble des opérateurs, qu'ils soient agricoles, les entreprises du territoire. Voilà, je ne me voyais pas ailleurs que dans cette commission-là. Et je participe aussi à la délégation aux entreprises qui a beaucoup travaillé ces derniers temps, vu la situation, le contexte économique lié à la crise du Covid et le confinement. Donc il a fallu faire un certain nombre de propositions et d'auditions pour permettre de préserver notre tissu entrepreneurial français et donc l'emploi. Et avec justement cette délégation, nous travaillons aujourd'hui à des sujets liés à l'augmentation forte du prix de l'énergie, à la rareté des matières premières, à la problématique du recrutement et de l'emploi. Donc tous ces sujets-là sont traités actuellement au Sénat. En fait, cette commission-là réagit à l'actualité.
Alors, l'économie dans l'Aude, votre département, notre département, c'est en grande partie l'agriculture. Alors, vous travaillez beaucoup sur la défense de l'agriculture, mais c'est un terme très vague, notamment sur la défense des agriculteurs.
Oui, tout à fait. Alors, je suis amené à soutenir un certain nombre d'amendements, notamment au projet de loi des finances, la sécurité sociale, ou au projet de loi des finances de l'État chaque année, puisque je suis... Mon groupe politique m'a désigné chef de file agricole. Donc sur toutes ces questions-là, ma méthode de travail, c'est la concertation. Avant qu'un texte arrive à l'examen au Sénat, je vais consulter les opérateurs locaux, la Chambre d'agriculture, le président des CUMA, le président des syndicats des vignerons, le président des vignerons indépendants, enfin, tous les opérateurs, les responsables de l'élevage, pour recueillir le maximum d'informations de leur situation à un moment donné et de l'impact de la loi dans leur activité. Et à partir de ces échanges-là, je suis amené, parfois, même souvent, à proposer des amendements aux différents projets de loi que nous examinons au Sénat. Ma façon de travailler, c'est de la concertation, on essaie de comprendre les problématiques et ensuite on les porte au niveau national dans la loi.
Alors concrètement aujourd'hui, vous travaillez par exemple... Alors il y a le problème de la retraite des agriculteurs qui revient et qui n'est pas résolu.
Non du tout et bon... Je me suis un peu agacé dans la presse en début de mois, puisque justement sur la question des retraites agricoles, j'ai participé au travail à la commission mixte paritaire sur ce sujet-là. Les retraites agricoles, c'est un serpent de mer. Moi, j'ai ma grand-mère qui a 86 ans, qui touche une retraite agricole de misère, touche 500 euros par mois, avec la réversion de mon grand-père, qui est décédé. et qui a travaillé toute sa vie. Elle a commencé à travailler à 15 ans, elle a fini à 70 ans, et aujourd'hui, elle a une retraite de misère, alors qu'elle a travaillé au champ, à la vigne, elle a assuré l'éducation de ses enfants, elle les a élevés, elle s'occupait, à l'époque, il s'occupait des grands-parents, des parents, tout le monde vivait sous son toit. Donc, il y a une génération aujourd'hui de femmes en particulier, qui ont une retraite de misère, et je trouve malheureux et un peu... c'est inconvenable de ne pas les reconnaître, reconnaître leur travail à travers la retraite. Donc, la retraite agricole, c'est un long processus avec des petites avancées depuis le gouvernement Jospin. On a commencé à revaloriser, puis progressivement, un peu sous Sarkozy, un peu sous Hollande, maintenant sous Macron, donc avec la loi Chassaigne 1 et 2, qui était notamment la loi Chassaigne 2 de l'année dernière, qui était une très belle loi qui proposait d'aligner tout le monde sur le même niveau de rémunération de retraite, qui était 1080 euros, c'est-à-dire le SMIC brut.
Mais qui a fait beaucoup de déçus.
Voilà, qui a fait flop, et je le savais depuis le début.
Et pourquoi, à votre avis ?
Pour la bonne et simple raison que le projet, lui, qui partait vraiment d'un très bon sentiment, a été complètement vidé de son sens par la majorité en marche à l'Assemblée nationale. Les députés de la majorité ont décrété qu'il était inéquitable de donner le même niveau de pension de retraite à tous les exploitants, ceux qui ont cotisé, ceux qui n'ont pas cotisé, en fonction du nombre d'années, alors que l'objectif de la loi était justement d'ajuster tout le monde parce que ils n'avaient pas eu la possibilité par le passé, ou ni l'information, ou n'ont pas été déclarés. C'était une mesure de justice et
de rattrapage
et de récompense de leur travail à une génération qui est essentiellement composée, je vous le rappelle, de femmes à 80%, qui a donné sa vie et qui aujourd'hui sont en fin de vie. C'est-à-dire d'ici peut-être 5 à 10 ans, ça ne concernera plus aucun agriculteur, cette problématique de remise à niveau des retraites, puisque depuis une trentaine d'années, le régime existe et tout le monde cotise. Donc c'était une façon pour l'État de récompenser ces gens-là, parce que si on est là aujourd'hui, c'est quand même grâce à nos agriculteurs qui nous ont nourris pendant des années, et en particulier à ces femmes. Et je trouve le combat très intéressant et le résultat très injuste. Donc j'en veux beaucoup. Là, pour le coup, la majorité en place, qui n'a pas voulu suivre André Chassaigne et qui a complètement vidé cette loi de son sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Ça aurait été un geste social plus qu'économique, alors purement social.
Social et économique aussi, puisque les retraités, si leur niveau de vie augmente, feront un peu plus de cadeaux à leurs enfants, leurs petits-enfants, consommeront.
Mais dans la
plus.
Mesure où ils n'avaient pas été mis dans la boucle et ils n'avaient pas cotisé comme ça se passe...
C'est une mesure de rattrapage. Voilà. Et cette mesure de rattrapage n'a pas eu lieu... Et je le déplore très sincèrement. Alors, nous voulions au Sénat la réintroduire, donc aller à l'encontre de ce qu'a voté l'Assemblée nationale. Mais comme je vous disais tout à l'heure, moi, ma méthode, c'est la concertation. Je passe pas en force. Je suis allé rencontrer à plusieurs reprises les représentants des anciens exploitants agricoles. J'ai rencontré FNSEA, Confédération Paysanne, et tous m'ont dit, tant pis, on prendra le peu d'augmentation que l'on aura. On sait très bien que c'est pas convenable, mais s'il vous plaît, n'allez pas discuter, amender le projet au risque de l'annuler, de le faire annuler, et au risque de perdre le peu d'avantages que nous allons avoir. Effectivement, dans les faits, du coup, on l'a voté. Je l'ai voté à contre-cœur. Je l'ai voté, et tous les partis l'ont voté, puisque c'est passé à l'unanimité, en sachant qu'il n'allait pas être revalorisé. Et le résultat, c'est que dans l'Aude, sur 8000 exploitants agricoles, 400 seulement ont été revalorisés à hauteur des 1080 euros. Et la plupart, comme ma grand-mère, et j'ai attendu avec elle, avec impatience, son nouveau bulletin de retraite, elle a gagné 3 euros. Donc c'est, pour moi, je vous dis, c'est du foutage de gueule, clairement. Je l'assume. Donc nous reviendrons à la charge, là, pour le coup, dans les années qui arrivent, et le plus rapidement possible, pour proposer, avec le nouveau gouvernement qu'il y aura là, à nouveau, de revenir sur cette loi, de manière à ce que tout le monde, tous les retraités, puissent avoir le même niveau minimal de pension à 1080 euros brut.
L'agriculture, alors donc on a parlé des agriculteurs et des retraites, mais il y a l'agriculture avec les problèmes liés notamment au réchauffement climatique et aux calamités qui sont plus ou moins liées. Enfin, ça a toujours existé, les calamités, mais paraît-il, elles sont en recrudescence. Alors là encore, quelle peut être l'action d'un sénateur ?
Bien, nous avons fait un gros travail de concertation et d'audition sur un sujet que nous appelions de nouveau depuis très longtemps. Moi, je l'appelais de mes voeux, alors que je n'étais pas encore sénateur, étant vigneron et touché, malheureusement, de plus en plus par les aléas climatiques, en tout cas de plus en plus régulièrement, et l'ensemble des vignerons dans ce département, que ce soit la Fédération des Caves où les vignerons indépendants, nous appelions de nouveau une réforme du système de la multirisque catastrophe naturelle, qui était aujourd'hui pas adaptée du tout aux besoins, en particulier chez nous en climat méditerranéen, où les aléas sont de plus en plus forts chaque année. Il est prévu une vague de froid sur ce week-end, avec, lorsqu'on regarde les modèles, probablement une catastrophe au niveau du gel aussi importante que celle de l'année dernière. Donc vous voyez, on est à un an, ça recommence.
Un risque très net.
Donc l'objet de cette loi a été de travailler à l'ensemble des organisations professionnelles pour faire en sorte que l'ensemble des opérateurs partagent le risque lors d'un aléa climatique. Jusqu'à présent, les assureurs étaient assez réticents à assurer les agriculteurs. Quand ils les assuraient, ils leur demandaient des contreparties relativement importantes. Beaucoup d'assurés dans l'Aude, 300 ou 400 je crois l'année dernière, ont été exclus de l'une des rares et seules assurances agricoles, compagnies qui assurent le risque agricole, c'est Groupama, parce qu'ils ont refusé de mettre l'ensemble de leur contrat, la maison, la voiture et le reste, chez Groupama. Donc il y avait une certaine forme de chantage entre les assureurs et les agriculteurs, parce que le modèle assurantiel d'assurance agricole était un modèle déficitaire pour les compagnies d'assurance. Le système du régime de calamité agricole qui permettait, lui, de compenser justement les pertes quand les exploitants n'étaient pas assurés, fonctionnait assez bien, sauf que certains risques n'étaient pas assurables. Certaines cultures n'étaient pas assurables. Ne rentraient pas dans le régime de calamité agricole, comme la vigne.
Donc, c'était assumé par l'État.
Assumé par l'État, mais pas pour tout le monde. Donc il y avait encore des trous dans la raquette importants. Donc ce travail nous a permis de valider une nouvelle architecture, un nouveau système, où les agriculteurs, quel que soit leur mode agricole, qu'ils soient maraîchers, qu'ils soient vignerons, céréaliers ou arboriculteurs, prendront à leur charge 20% du risque. C'est la franchise, 20%. Ensuite, les assurances prendront, en fonction du type de culture, entre 0, 10, 20, voire 30%, ils assureront 30% du risque supplémentaire. Et au-delà de 50% ou à 60%, ce sera de l'État qui prendra part à sa charge le remboursement. Donc on a une répartition un peu plus équitable des risques, qui permet du coup à l'agriculteur son intérêt de s'assurer, puisqu'aujourd'hui très peu d'agriculteurs sont assurés, très très peu d'ailleurs. Chez les vignerons par exemple, qui ont le plus gros fort taux d'assurance dans l'Aude, nous sommes le département le mieux assuré de France. On n'est pas à 50% de l'ensemble de la production, donc ce qui est peu. Chez un arboriculture, il doit être à 5%. Donc l'idée, c'est d'augmenter l'assiette et d'assurer le maximum de surface. Cet argent-là permettra aux assurances de faire face quand il y aura des coûts forts comme cette année pour prendre à leur charge. Et au-delà de ces 50-60%, l'État, dans la solidarité nationale, avec un budget de 400 millions d'euros par an, devrait boucler la boucle en cas de phénomène important comme l'année dernière. Donc on a un système beaucoup plus équitable et mieux réparti.
Voilà, le principe étant d'arriver à répartir entre l'État d'une part et puis les assureurs, grosso modo, le privé.
Et l'exploitant.
Et l'exploitant.
Voilà, qui lui prend 20% à sa charge.
Oui, avec le système de la franchise.
Tout à fait.
Voilà, donc.
Mais à partir de 2023, donc ce qui va se passer ce week-end,
oui,
et j'espère que nous ne serons pas touchés, j'espère, c'est le modèle actuel qui va exister, avec beaucoup de compagnies d'assurance qui ont annulé des contrats ou des exploitants qui ne se sont pas assurés cette année.
Donc il y a encore une incertitude qui va régner pendant un certain temps. En tout cas, merci Sébastien Plat de nous illustrer certaines des actions que vous menez et ce à quoi peut servir sur le terrain un sénateur. On marque une seconde pause, on se retrouve pour une troisième partie dans laquelle on va évoquer peut-être un peu plus alors le côté politique, politicien, socialiste, enfin l'élection et l'après-élection. À tout de suite.